J'en savais rien, d'accord? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer? Tu as bonne mine avec ton « on a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Armé de mitraillettes, de ballons ou de bonbons, l'adolescent francilien est accro aux écrans. Ce n'est pas un scoop.
Oui, c'est à ce côté loup-garou, on ferme les yeux, le Wendigo capture un scoop.
94% des collégiens jouent au moins une fois par semaine.
Ce sera la grande mode.
Se fabriquer un héros qui ressemble à ce qu'on aimerait être.
Ça me permet un peu de m'évader.
Mais du coup, vous jouez toujours au même jeu?
Non, non, mais je sais pas jouer à vos trucs de toute façon.
Engager ce héros dans des aventures, combattre des monstres qui peuvent évoquer des personnages des puissances paternelles. Maternelle.
Tu as perdu! Tu as perdu! Tu comprends? Tu ne joues plus!
Bonjour tout le monde et bienvenue sur Aléa. Nous entamons aujourd'hui dans notre émission consacrée à la philosophie du jeu une série d'épisodes portant sur un ingrédient ludique fondamental, l'incertitude et la place que nous lui donnons dans nos jeux. Nous regarderons au cours des 4 prochains épisodes les différentes formes que peut prendre cette incertitude. Parfois nommé hasard, lorsque certains mécanismes ludiques produisent des événements que les joueurs et les joueuses ne peuvent pas contrôler, des dés sont lancés, des cartes sont piochées et des billes, même parfois au casino, sont lancées dans la roulette. Ces premières sources d'incertitude sont à distinguer cependant de celles induites non par le jeu, mais par les autres joueurs, les autres joueuses. Au poker, par exemple, si les cartes sont effectivement distribuées au hasard, les comportements de mes adversaires, eux, ne sont pas l'effet du hasard. Et même s'ils peuvent parfois en prendre l'apparence, un joueur expérimenté aura une chance de lire dans ses comportements, contrairement à un jet de dés qu'on ne saurait prédire. Nous parlerons plutôt dans ce cas-là d'une incertitude engendrée par une information incomplète. Mais nous commençons aujourd'hui par une troisième forme d'incertitude, plus énigmatique, plus paradoxale. Lorsque le hasard est absent et que l'information est complète, lorsque rien n'est caché et que tout est contrôlé, il réside cependant pour de nombreux jeux une incertitude issue de leur complexité. C'est ce qu'on appelle la facette combinatoire de l'incertitude. Commençons par regarder de plus près ce jeu millénaire que sont les échecs. Les mathématiciens et les mathématiciennes qui se sont intéressés à ce jeu sont au moins d'accord sur une chose. Une partie parfaite, c'est-à-dire une partie où les deux adversaires ne commettent aucune erreur, une partie parfaite n'a qu'une issue possible. Pourtant, on n'a pas encore réussi aujourd'hui à identifier quelle était cette issue. Est-ce que les blancs gagnent à tous les coups? Est-ce que ce sont les noirs qui gagnent à tous les coups? Ou alors est-ce qu'une partie parfaite se termine nécessairement par un match nul? Même si on est encore incapable aujourd'hui de donner une réponse à cette question, on peut affirmer sans se tromper que toutes les parties d'échecs, si elles étaient jouées par des adversaires aux capacités cognitives illimitées, par des joueurs parfaits donc, toutes les parties d'échecs auraient la même issue. Et ce, pour une raison simple. Le jeu d'échecs est un jeu déterminé. Cela signifie qu'à tout moment, lors de la partie, les joueurs ont une connaissance exacte de l'état du jeu, c'est-à-dire de la position de chacune des pièces sur l'échiquier, et de l'ensemble des actions qui peuvent venir modifier cet état, c'est-à-dire les coups autorisés par les règles du jeu. Autrement dit, rien n'est laissé au hasard, on ne jette aucun dé, on ne pioche aucune carte, on ne lance aucune bille dans la roulette. Et c'est justement parce que le hasard est absent qu'il n'y a qu'une issue possible. On dit que le jeu d'échecs est déterminé. La plupart des autres jeux de stratégie combinatoire sont également déterminés. C'est le cas du jeu de dames, du jeu de go, de la Wallée, du puissance 4, d'Othello. Certains de ces jeux ont d'ailleurs été résolus, signifiant qu'on a pu trancher parmi les trois issues possibles. Soit le premier joueur gagne à tous les coups, soit le second joueur gagne à tous les coups, soit ils font match nul. En 2007, des chercheurs de l'université d'Alberta, au Canada, se sont par exemple intéressés aux dames anglaises, une version similaire au jeu de dames que nous connaissons, mais sur un tablier de 64 cases au lieu de 100. Et ces chercheurs ont montré qu'une partie parfaite de dame anglaise se soldait nécessairement par un match nul. Alors, c'est le résultat de 17 ans de recherche qui a nécessité des dizaines d'ordinateurs et des mois de calcul, mais on peut aussi, avec un peu de patience, retrouver le même genre de résultat tout seul avec une feuille et un crayon pour des jeux beaucoup plus simples. Le Morpion, par exemple, où les choix sont relativement limités et tout à fait à portée de main. Vous verrez qu'en jouant bien, personne ne pourra jamais ni perdre ni gagner. Cela étant dit, et même si les échecs sont déterminés, Même si on montre un jour que la seule issue possible est par exemple le match nul, cela ne veut certainement pas dire que le jeu n'a aucun intérêt, pour la bonne et simple raison que dans le cas de jeux aussi complexes que les échecs, il n'y a pas en pratique de partie parfaite. Du moins en ce qui concerne les êtres humains. Le nombre vertigineux de situations possibles après seulement 3 tours de jeu suffit à perdre n'importe quel joueur. On utilise alors ce qu'on appelle des heuristiques, c'est-à-dire des stratégies imparfaites, mais qui nous permettent quand même, tant bien que mal, de faire des choix avisés en un temps raisonnable. Face à cette explosion combinatoire, c'est-à-dire à l'éventail des situations possibles qui dépassent de loin le nombre d'atomes dans l'univers, les joueurs humains tâtonnent, apprennent, perfectionnent certaines stratégies de jeu qui resteront à jamais imparfaites. Ici, le déterminisme laisse place à l'incertitude, celle de choisir entre telle ou telle stratégie, puisqu'après tout les deux semblent raisonnables, au moins sur le court terme, celle de savoir quelle stratégie va adopter notre adversaire, ou même s'il va peut-être commettre une erreur. Et cette incertitude est bien différente de celle engendrée par le hasard, tout simplement parce qu'on peut l'apprivoiser, parce qu'on peut apprendre par la théorie ou par la pratique à canaliser cette complexité. S'il n'y a rien à apprivoiser dans un jeu de pile ou face, s'il y a peu à apprendre lorsqu'on joue au morpion, c'est qu'il faut trouver un intermédiaire entre le hasard et la simplicité, entre ce qu'on ne peut pas contrôler et ce qui est certain. C'est lorsque nos capacités cognitives sont dépassées par la complexité du jeu, parce que nous avons recours à des stratégies approximatives, parce que la partie ne sera jamais parfaite, que le jeu gagne son intérêt contre le déterminisme.
Ah oui, mais j'en savais rien, d'accord ? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer ?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer ? Tu as bonne mine avec ton « on a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Armé de mitraillettes, de ballons ou de bonbons, l'adolescent francilien est accro aux écrans. Ce n'est pas un scoop.
Lui, c'est à ce côté loup-garou, on ferme les yeux, le Wendigo capture un scoop.
94% des collégiens jouent au moins une fois par semaine.
Ce sera la grande mode.
Se fabriquer un héros qui ressemble à ce qu'on aimerait être.
Ça me permet un peu de m'évader.
Mais du coup, vous jouez toujours au même jeu ?
Non, mais je sais pas jouer à vos trucs de toute façon.
Engager ce héros dans des aventures, combattre des monstres qui peuvent évoquer des personnages, des puissances paternelles. Maternelle.
Tu as perdu ! Tu comprends ? Tu ne joues plus.